France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On a pas tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de ne rien dire. D'observer un moment de silence.
Sur scène, il évoque un dîner parisien, bobo, un télo, ouais. Sur France Inter, il maîtrise toute la culture. Alors, pour confirmer ses dires, nous l'avons invité ce matin. Bonne année tout le monde et à vous Laurent.
Merci à vous aussi et bonne année à tous nos auditeurs.
Gad en hébreu, fortune, chance, El Malet en arabe, le bon. Bonjour Gad Elmaleh.
Bonjour et bonne année.
Oui, ce matin nous avons invité un autre vous-même, Gad Elmaleh, le spectateur de cinéma. Oui, curieux, nous l'étions, de savoir quels films vous ont marqué. Et la belle surprise quand nous avons reçu votre liste avec de l'enfance, de la nostalgie, un saut à New York et deux voyages en Italie entre autres. On n'en dira pas plus pour l'instant. Après un passage éclair et triomphal à Montréal, vous revenez en France du 28 janvier au 15 février prochain au Dôme de Paris. Ça s'appelle lui-même, donc sans aide, tout seul sur scène. Enfin, nous évoquerons les films de ce premier mercredi de l'année, de Bird, Maya et Pépé jusqu'à Tout ira bien. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Moi j'aime bien voir les films américains parce qu'il y a plein de musique, alors tu pleures, t'es ému dans les films américains. Ils sont forts les américains parce que des fois ils te filment des trucs qui sont pas très émouvants, mais avec la musique tu pleures. Ils peuvent te filmer un môme en train de se brosser les dents, tu peux pleurer, je te jure. Les mecs ils arrivent comme ça devant la caméra et...
You know red is fire. You know I harbuck my life. Was fooling around and petting around and skating around steady shit. But I have one fucking question right now, and you have to answer me to my fucking question, man. Just one fucking question. Where is Brian?
Ah, le chantage à l'émotion dans les films américains, par parenthèse. On pourrait en dire autant parfois de certains films français. Sur scène, Gad Elmaleh, vous faites aussi du cinéma en fait. Vos talents de conteur génèrent des images, une gestuelle un peu comme une mise en scène, et même du montage dans ces histoires.
Oui.
C'est du cinéma un peu sur scène.
C'est juste, c'est marrant, j'ai jamais vu ça comme... J'ai jamais fait le parallèle. Mais même le montage, en effet.
Oui.
Déjà à l'écriture, et parfois même d'un soir à l'autre.
Et parfois, vous changez de montage, effectivement.
Et je change de montage. Parfois, j'alterne, j'inverse. Parfois, je coupe, et surtout, je coupe. Et je crois que le métier d'un humoriste, c'est de couper, 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 pour affiner et raffiner.
Quel humoriste vous dit dans 10 minutes in America, quand tu sens que c'est pas bon, tu sautes même un ou deux sketchs pour arriver, même après. C'est ça, hein?
Oui, parce que c'est la mise en danger, c'est l'instinct de survie. Alors, ça paraît être une image un peu... exagéré, mais c'est vrai que quand vous êtes dans des comédie clubs surtout, plus que dans des grandes salles, vous ne pouvez pas compter sur le charme, sur les projecteurs, sur le décorum. Il faut être dans l'efficacité comique. Et c'est vrai que dans le documentaire, je ne sais plus quel humoriste d'ailleurs me disait ça, et tu sautes à la blague d'après.
Je crois que c'est Woody Allen qui vous dit ça.
Bah alors là,
ouais. Pas mal. Hein.
ou un truc comme ça. Oui, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que tu fais du montage en temps réel et tu veux aller vite à... l'amour. À ce qu'on t'aime vite, à
oui,
ce qu'on rit, à ce qu'on te valide, quoi. Parfois, tu sautes 3, 4, ah, celle-là marche pas, celle-là marche pas, celle-là marche pas, et puis tu vas à la 5e.
On en a beaucoup, hein.
Eh ouais, oui. Il faut avoir une réserve. Ouais.
Et vous, quel spectateur êtes-vous au cinéma? Est-ce que vous avez une place favorite, par exemple, dans une salle?
Jamais au premier rang, jamais, jamais, jamais.
Pourquoi?
Au grand jamais. Je déteste être au premier rang de rien. De rien. Que ce soit dans une église, un cinéma, une synagogue, un baptême, une conférence ou un spectacle, je déteste être
vous
au premier
rang. Vous
aimez
bien avoir du public devant vous?
Oui, et derrière.
Ah donc vous vous mettez au milieu?
Premier tiers.
Et sur le côté ou au milieu?
Le gars commence par dire je m'en fous et après on sent que c'est un psycho rigide, fou
furieux. En
fait
c'est le rang 8.
Je suis toujours en D9 madame.
Si je suis pas en D9, en revanche dans l'avion je dois être hublot.
D'accord.
Voilà. Comme on s'en fout complètement.
N'importe quoi. En revanche vous adorez les bandes annonces.
Beaucoup.
Beaucoup.
Je suis un grand consommateur de bandes-annonces et je dois dire de documentaires, parce que j'arrive beaucoup plus à me plonger dans le documentaire, à être connecté au documentaire qu'à la fiction. Alors, ouais. Voilà. Mais c'est des films aussi.
Ah, ce sont des films.
On va commencer votre liste et allons-y. Allongez-vous, Gad, et revivez cette scène. Vous avez 6-7 ans. C'est un samedi après-midi à Casablanca. Votre père vous emmène au cinéma Le Triomphe, voir Le Kid de Charlie Chaplin. Racontez-nous ce que vous ressentez. Vous ressentez quoi? Ah, vous avez un petit peu les larmes aux yeux.
Non.
Non, pas du tout.
Je m'attendais pas à écouter la musique. En fait, c'est la première fois de ma vie que je vais au cinéma. Première fois. Et c'est avec mon père. Mon père ne m'a jamais amené au cinéma après. Donc il m'a amené au cinéma cette fois-ci.
Il était dégoûté.
Alors, et je rentre dans cette salle. C'est un cinéma dans les années 70 à Casablanca. Donc ce sont les ouvreuses avec leurs lampes qui vous guident, qui vendent des chocolats, qui vendent des glaces. Il m'en a pas acheté d'ailleurs ce jour-là. On prend place et je découvre le cinéma en découvrant Chaplin, en découvrant Le Kid, et je crois que c'est ça le cinéma. Je crois que ça ne peut être que comme ça le cinéma. C'est-à-dire, je crois que ça ne peut être que quelque chose auquel on s'identifie, dans lequel on rentre complètement et qui parle de nous. Et quand vous avez dit allongez-vous, c'est une métaphore psychanalytique, mais on n'est pas loin de ça parce que je suis en train de découvrir aujourd'hui pourquoi j'ai du mal à rentrer parfois dans la fiction.
Oui, c'est ça. Ouais,
et je connecte plus avec les documentaires.
Et Le Kid, ça parle d'un père surtout, d'un homme qui s'occupe comme un père d'un garçon abandonné.
Alors, j'étais pas abandonné, mais j'y vais avec mon père ce jour-là.
Oui.
Et j'ai jamais vu ça comme ça. Merci, c'est fou.
Ah oui, c'est ça.
Si je suis ému comme ça à chaque film, on va mal terminer cette émission.
Non, mais surtout, vous avez vu chez Chaplin le talent de raconter, peut-être pas à cet âge-là, mais de raconter en image une histoire et sans les mots.
Oui, j'ai surtout été touché. J'avais l'impression, vraiment gamin, j'avais l'impression qu'il parlait de moi, en fait. J'avais l'impression que ça pouvait arriver avec mon papa, qui lui aussi était artiste, il faisait de la pantomime quand j'étais gamin. J'avais l'impression que je pouvais être ce gamin, je voulais être ce gamin. Et je faisais des parallèles avec les petites rues de Casa où j'habitais. Je sais pas, j'avais une fascination pour ce gamin. Je pensais que je pouvais être ce gamin. Et Chaplin, un héros, quoi. Quelqu'un qui avait tout compris avec cette petite cassure, avec la blague, quoi. Avec le gag tout le temps.
Ouais.
Le gag parfois dur en plus. Hein, parce qu'après, j'ai découvert Buster Keaton et j'ai compris qu'il était moins dur que Chaplin. Et je m'en voulais parce que moi, Chaplin, pour moi, c'était le maître là-dedans. Ouais. Mais Chaplin, il peut être dur aussi.
Votre fils l'a vu et revu aussi ce film.
Oui, on l'a vu ensemble.
Et il paraît qu'il marchait comme Charlot aussi.
Ouais, et c'est un
film qui se passe de père en fils, quoi.
Complètement. J'espère que ses enfants le regarderont aussi. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion, même la grande joie, de rencontrer le fils de Chaplin.
Oui. James Tyrae. Non, c'est son petit-fils.
Non, Eugène Chaplin.
Oui.
James Tyrae, c'est son petit-fils.
Petit-fils, oui. Ouais.
Et j'étais chez lui à Vevey, en Suisse. J'étais en tournée. Puis un copain m'a dit, est-ce que tu veux rencontrer? J'ai dit, mais grave, je veux rencontrer le fils de Chaplin. Et je vais dans ce manoir. Et il est assis devant moi. Et derrière lui, il y a un piano sur lequel Chaplin avait tout composé. Et sur ce piano, il y a une photo de son papa. On a tous une photo de notre papa, sauf que lui, son papa, c'est Chaplin. Et donc, je lui pose un tas de questions et je suis tellement curieux et je veux plus partir de cet endroit. Parce que je suis dans l'univers de Chaplin et je repense au Kid.
Un autre enfant abandonné, tiens, mais en France, dans les années 60, c'est votre deuxième choix, c'est L'enfance nue, premier film de Maurice Pialat sur ces enfants recueillis par l'assistance publique et mis en nourrice par des familles.
Vous savez que c'est un enfant recueilli temporairement.
Il connaît sa maman, alors?
À peine. Elle lui a pas écrit depuis un an. Mais elle peut le reprendre quand elle veut. Alors je vais lui donner votre adresse, et si elle vous écrit, vous devez lui répondre dans les 8 jours.
C'est ça.
Mais, comme d'habitude, vous ne donnerez pas trop de détails.
Puis vous m'enlèverez pas de la tête que ce ne sont pas des enfants comme les autres. D'abord, on sait pas d'où ils viennent.
Moi, j'attendrai pas ma carte d'identité pour savoir d'où je suis né. Moi, je fais mon enquête moi-même. Quand j'aurai assez d'argent, je prendrai le train et j'irai voir comment ça se passe là-bas.
Là-bas, c'est le paradis perdu de l'enfance heureuse. C'est pour cela que ceux qu'on appelle les recueillis temporaires chercheront toute leur vie cette enfance qu'on leur a volée.
L'enfance nue, premier film de Maurice Pialat, basé sur deux histoires vraies, le suicide de deux enfants de 13 ans. Alors vous qui aimez les docs, lui il disait c'est pas du cinéma vérité, ni un film à thèse.
Non, je pense surtout au lien entre l'enfance, l'enfance, je vois le lien entre les deux films, ben c'est intéressant quand même. Alors je voudrais vous raconter la rencontre avec ce film.
Oui.
Parce que les films, on les rencontre de différentes manières. Et ce film, je l'ai rencontré à la télé et il m'a attrapé, il m'a saisi.
Vous aviez quel âge ?
J'étais pas tout jeune, hein, j'avais ça fait...
J'avais 45 ans.
J'avais 45 ans. Non, mais je sais pas, ça fait une vingtaine d'années. J'étais déjà comédien même, je pense, ça fait une trentaine d'années. Et puis en fait, c'est à la télé, c'est même pas le sujet, c'est même pas une réplique, c'est un plan. Un plan. Le plan du banquet où chante la Java bleue. C'est bouleversant. Alors je suis là et je pense que c'est sur France Télé, je crois. Et j'allume ma télé, je crois que c'était sur Antenne 2 à l'époque. Et j'allume ma télé, je suis en train de zapper. Et en fait, je zappe plein. Et je tombe sur un plan. Et c'est un plan, en fait, à l'intérieur duquel il y a tous les acteurs, enfin, qui sont pas. C'est pas des vrais acteurs. Hein, c'est... Et c'est une scène, je sais pas comment vous dire, ça m'a immédiatement saisi. Je dis, c'est vrai ce truc-là, c'est un truc vrai. C'est un docu, c'est quoi, c'était trop vrai, quoi. Une espèce de plan-séquence comme ça, et tout le monde rentrait dans le plan. C'est la Java. Je ne connaissais même pas cette chanson, c'est un truc que j'ai compris l'histoire de cette chanson. Et je sais pas, et j'ai commencé à voir le film, mais j'ai pas vu le film entier puisque je l'ai chopé en cours de route. Et après, je me suis procuré le DVD et j'ai jamais arrêté de le revoir. C'est un film qui me bouleverse et c'est, enfin, le cinéma de Pialat, mais cette histoire me bouleverse.
C'est étrange quand même cette fascination que vous avez d'acteurs pour des documentaires, c'est-à-dire pour des films où il n'y a pas d'acteurs, par définition.
C'est vrai, ce sont les films qui m'ont le plus touché tout le temps, tout le temps. Ou alors, les films, et on va en parler dans ma liste, il y en a qui sont un petit peu, je sais pas, est-ce qu'il y a un genre, comment ça s'appelle, le mockumentary, c'est ça le mockumentary? Non, c'est ça.
Mockumentaire.
Non, mais ça existe.
Oui, bien sûr que ça existe.
Ou le mentir vrai.
Le mentir vrai.
Ouais. Oui. Preuve de votre éclectisme, on passe de Pialat à Lelouch, grand écart donc avec ce film Les uns et les autres. Mais souvenir encore gamin d'un film regardé en famille et en boucle comme le Boléro sur cassette VHS. On écoute un extrait.
Bientôt, après 5 ans de préparation et 1 an de tournage à travers le monde, Les uns et les autres, 120 comédiens, 200 danseurs, 10 000 figurants et 3 heures de spectacle pour rire et pleurer, des petits et des grands moments, des uns et des autres. Une histoire vraie qui se déroule de 1936 à nos jours. Conçu et filmé par Claude Lelouch, à partir de la mémoire des uns et des autres.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film ?
Alors, Les uns et les autres, au moment où je le découvre, c'est très très fort. Je ne sais pas qui est Claude Lelouch, je ne sais pas... Oui, je sais que c'est un film, mais c'est pas... On ne regarde pas un film, c'est le film. Il n'y a pas beaucoup de films, on n'a pas beaucoup de cassettes vidéo à l'époque à casa quand on est petit. Il y a des... vidéo club qui commence un peu à naître, mais pas vraiment. On les reçoit de France, les cassettes. On est dans les années 70. Et ce film-là, c'est le film. C'est-à-dire, c'est le moment où on s'assied sur le petit salon marocain, là, vous voyez, cette espèce d'assise, là, toute la famille s'assied. Et on regarde ce film tous les 2 jours, à un moment différent du film. C'est un peu comme on écoute une musique, Mais je ne sais pas que c'est un film, c'est le moment où on est tous devant le truc. C'est le moment où on est tous devant dans le salon marocain. Et il m'a marqué parce que d'abord c'est du spectacle. Et beaucoup, beaucoup d'émotions. Et le spectacle à l'intérieur même du film, et la danse.
Quatre familles, françaises, allemandes, américaines, russes, de 1930 à nos jours. Vous allez me prendre pour une folle,
La Shoah,
ouais,
plus.
Écoutez bien, dans l'épisode français, encore une histoire d'enfant. Ce bébé déposé dans une gare par ses parents juifs pendant l'occupation et recueilli par un curé qui ignore ses origines. Non mais. Il y a un truc avec ça, non?
J'ai vu plusieurs choses, j'ai vu beaucoup de choses là dans ce que vous m'avez dit.
Bah, toujours le thème de l'enfant abandonné.
Ouais, j'ai vu Moïse aussi.
Dans le panier.
Ouais. J'ai vu Jésus aussi.
vous le voyez partout.
J'ai vu sa mère.
Oui, c'est elle, elle aussi. On le sait.
On part en Italie maintenant, rejoindre l'un de vos cinéastes préférés, Nanni Moretti. Journal intime, son 7e film, Nanni circule dans Rome, vide en Vespa, et sa joie d'être en vie dans les lumières de l'été. Alors, on va vous faire choisir une musique.
Sur une musique de Cheb Khaled.
Ah, bah voilà.
Ah, parce qu'on voulait. Non, pas du tout.
Mais justement, on voulait vous faire choisir soit Khaled, soit Sylvain Lamangano, soit Keith Jarrett. Ah, bah, on va.
Vous avez choisi Khaled.
C'est la musique du générique. Il est là.
Décrivez ce
alors
qu'on
là.
Voit.
Là, c'est vraiment un mélange de... C'est ce que j'adore au cinéma, hein. C'est quand l'image, le son, le montage, la situation, rien n'est fait pour aller ensemble, et tout colle, et c'est magique.
Oui.
Et là, c'est Nanni Moretti qui est sur son scooter, avec son casque qui a une forme étrange, ses lunettes noires, sa barbe, et qui se balade dans les rues de Rome, et qui fait des espèces de zigzags sur son scooter. Et c'est son errance, c'est son journal intime, c'est sa balade. Et on rentre avec lui dans sa vie, dans son... Moi, pour moi, c'est du stand-up filmé, quoi. C'est vraiment très, très, très fort, au journal intime.
Et là, à nouveau, on n'est pas loin du documentaire, hein, quand même.
Totalement. Alors, ouais, c'est ce qui me parle.
Il est né énervé, hein, Moretti, contre une critique de cinéma. C'est très drôle, cette scène où il va engueuler le mec qui a aimé Henry, Portrait d'un Serial Killer. Les retraités réac, les pizzas livrées à domicile, les cassettes vidéo, les chiens de garde, etc.
Les séries américaines.
Il est un peu moraliste, hein, aussi.
Les enfants.
Totalement.
Ouais.
Pardon.
Les enfants.
Les
enfants rois.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a trois chapitres, Rome, les îles et les médecins. Et d'ailleurs, à propos de médecins, donc il va d'un spécialiste à l'autre, ce qui est fou, c'est qu'il a eu vraiment un cancer et qu'il l'a transformé en épisode comme ça. C'est-à-dire qu'il raconte sa vie sans vraiment raconter sa vie, Moretti. Et moi, ça me fait penser à vous. Oui. Sur scène. Vous n'arrêtez pas de parler de choses intimes, comme un journal d'ailleurs, mais c'est pas vraiment vous.
C'est... Oui, c'est moi, mais c'est justement un peu... Il y a une petite torsion, il y a une petite... Je tire dessus, je le tords, je le déconstruis pour que ça devienne... Comme dans mon film, comme dans Reste un peu, c'est-à-dire oui. il y a une base, mais il faut que ça devienne un film. Et là, il faut que ce soit drôle. Donc, je ne peux pas faire un TED Talk vraiment sur ma vie. Je ne peux pas faire une conférence. Donc, je le tords, je le secoue un peu, mais les ingrédients sont totalement autobiographiques. Mm. Mais encore une fois, c'est ce que vous disiez sur l'attrait pour les documentaires. C'est que quand c'est vrai, je rentre dedans, quoi. Mm.
Non so perché, ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini.
Vous l'avez déjà rencontré, Nanni Moretti?
On l'a déjà, oui, on l'a déjà rencontré. Ah ouais? Vous rêvez de le rencontrer ou pas?
Je sais pas.
Ouais.
Je sais pas parce que... Non, mais je crois que je serais intimidé, je crois. Ouais. C'est un a priori que j'ai sur lui. Parce que je l'ai vu dans les interviews, je crois que... Je sais pas quel est le terme, mais je sais pas si...
Il est un peu raide.
Ouais, ou ma mère dirait pas commode.
Oui,
pas commode. C'est ça.
Oui, pas
moi, je vois un meuble. Hein,
c'est marrant quand vous dites ça, parce que dans Palombella Rossa, il y a une journaliste qui l'interview, elle lui dit « Ah, c'est très kitsch ». Il dit « Mais kitsch, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire ». Il adore le mot « précis », Moretti. Et vous, vous adorez trouver le mot « précis.
Ah oui. Donc je sais pas, peut-être que... Peut-être, je sais pas. Je sais pas s'il aime rire. Woody Allen aime rire. Il aime justement qu'on déconstruise.
C'est vrai, Moretti, il aime faire rire, mais il aime pas forcément rire.
Je pense pas.
Parce
que j'ai vu certains journalistes, certains acteurs lui tendre des perches, non pas sur une blague ou une blagounette, mais sur vraiment une chose avec du sens, juste pour déconstruire ce qu'il était en train de dire. Et il rentrait pas là-dedans. Il attendait de dicter, lui, son tempo comique. Mais en même temps, ça donne des grands films. Donc,
ouais. Comme
bon, après, si vous me proposez de le rencontrer, je vois que ça...
qu'est-ce que vous aimeriez lui demander?
J'aimerais lui demander vraiment, est-ce qu'il est encore communiste maintenant, en ce moment? T'es sérieux? Vraiment? Maintenant? C'est dangereux, non? C'est dangereux pour
surtout
nous tous.
Avec l'extrême droite à tête du pays. Ouais. Ouais. Comme chez Chaplin ou Moretti, le génie passe aussi par la présence physique, donc comme chez Woody Allen. Vous avez choisi Manhattan,
D'abord, il faut savoir le prononcer. Comment on prononce ?
Alors, c'est tout le truc des accents toniques. C'est Manhattan.
C'est ça.
Parce qu'on se demande si c'est Manhattan, Manhattan ou Manhattan.
C'est en deuxième.
J'ai fait à un moment donné du stand-up en anglais aux États-Unis.
Ben oui.
Et j'avais une coach d'accent. Ouais. Même pas d'anglais, mais d'accent. Dialect coach.
Ouais.
Et un jour, je lui dis, Julia, j'ai un problème. Tous les jours, je fais la même blague. Un jour, elle cartonne. Un jour, ça rit pas.
Oui.
Un jour, ça rit moins.
Oui.
Un jour, ça rit fort. Elle me dit, je viens demain te voir. Et ça rit pas. Alors que c'est vraiment une grosse blague. Et la chute, c'est sur le mot holiday. Holiday. Et je dis, mais pourquoi ça rit pas ? Elle me dit, bah, c'est normal. Tu as dit holiday. Et en fait, les Américains ne veulent pas faire l'effort. La structure mentale n'est pas prête à s'adapter au fait que tu n'aies pas mis l'accent tonique là où il fallait. Donc, il ne rit pas, il ne rentre pas dans ton truc. Nous, on fait des efforts pour les comprendre quand ils parlent vaguement le français.
Ouais, c'est vrai. Un hymne, une lettre d'amour donc à Manhattan, à New York, en noir et blanc, plus Gershwin, et on y est déjà dès le début.
Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. He romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Now let me start this over. Chapter 1.
He adored.
Woody Allen, c'est mélancolique, avec des névroses, du spleen, un idéal, des rituels. Qu'est-ce que vous aimez ?
Des femmes.
Des femmes.
De l'amour.
Oui.
De l'embarras, des situations de malaise.
Oui.
C'est la comédie, hein, c'est beaucoup de comédie, c'est de la comédie humaine. Et surtout, c'est de l'esprit. Voilà, c'est de l'esprit. C'est de l'esprit. C'est tout le temps de l'esprit. Des dialogues improvisés, j'ai eu la chance de travailler avec lui, de le voir faire. Et donc, c'est beaucoup d'improvisation dans les scènes. La première fois que je l'ai rencontré, c'est sur le tournage de Midnight in Paris, avec Owen Wilson.
Oui, où vous jouez un détective.
Alors là, je joue un détective, j'ai un tout petit rôle, mais je suis super fier, très flatté. On est sur le pont Alexandre III, je suis dans une vieille voiture, habillé en détective de l'époque, et il y a un mec qui toque au carreau, toc, 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 c'est Woody Allen, je baisse ma vitre. Il me dit « Hi, hi ». Il me dit « Thank you for being here ». Je dis « Non, non, thank you for engaging me on the movie ». Et alors, il me dit « Bon, est-ce que tu sais ce que tu fais dans cette scène ?» Ben, je dis « Ben, non ». Parce que lui ne donne pas le scénario, surtout aux petits acteurs qui ont des petits rôles. Je dis « Ben, non, parce que je n'ai pas eu de scénario ». Il me dit « Ah, vous n'avez pas eu le scénario ?» Je dis « Ben, non, on ne me l'a pas donné ». Ok, il vous espionnait la personne qui est devant vous, en parlant d'Owen Wilson. Je dis « Ok ». Je lui dis, vous voulez que je fasse quoi exactement ? Et il m'a dit en anglais, faites ce que vous pensez qu'on fait quand on espionne quelqu'un. Oh my god, je lui dis, comment je vais ? Et je me suis dit, j'ai peur qu'il me donne pas assez de prises, donc je vais mettre le paquet dès la première prise. Et là, j'en fais des caisses. J'entends action, et là, je suis une espèce de détective, mais à jouer super grossièrement. Il fait cut, il me dit, non, alors, et on va doucement, juste regardez-le, moi je vais m'arranger pour que ça fasse ce que vous êtes en train de l'épier. Et après, ça a été une belle relation. Et j'ai tourné une série après avec lui, et puis on a parlé beaucoup de stand-up parce que c'est un comique à la base.
Bien sûr. Et lui aussi, j'évoquais votre dîner où vous moquiez de France Inter, mais lui aussi, pareil, c'est le snobisme dans Manhattan aussi.
Oui, totalement.
Les intellos, quoi.
Il s'en moque, mais il en fait partie.
Mais bien sûr.
Moi, j'ai eu des moments avec lui à New York, j'étais chez lui, j'ai vu un peu les gens avec qui il... les gens qu'il fréquentait, et c'est quelque part aussi sa vie. Donc je crois qu'à la fois, il baigne totalement là-dedans, dans la, je sais pas comment on peut appeler ça, l'intelligentsia upper
East Side.
East Side, ouais. de New York, avec. Et en même temps, il s'en moque, il la critique, il la malmène un peu. On le voit d'ailleurs, parfois il vous présente des gens et puis il rit, il a toujours un petit mot pour. C'est pas une moquerie, mais il y a toujours un peu. On désamorce le truc.
Le point commun de votre liste, c'est quand même la musique à part Piala. Hein. On n'arrête pas d'entendre de la musique.
Oui, c'est
vrai. Gershwin, Kate Jarrett, la belle musique du Kid, c'est important, manifestement.
Très, très important. Ça m'accompagne. Alors, dans le cas de Woody Allen, bon, il est musicien, c'est pas une révélation.
Ouais.
Vous savez qui joue de la clarinette?
Oui,
ah bon, je me rappelle d'un...
pas super bien d'ailleurs.
Je me rappelle d'un documentaire dont j'ai oublié le nom où
oui,
il fait sa
aussi,
tournée.
Moi aussi, vous... j'aime pas beaucoup. Il y a des passages que j'aime pas beaucoup. Mais bon,
c'est quand
avec
quand
sa femme notamment.
Son linge à
ouais,
laver.
Oui, oui, oui.
Je sais pas. Il arrive dans toutes les villes.
Oui,
les grandes villes.
Avec sa femme qui critique l'hôtel. Il lui dit t'étais dans un champ.
Je me rappelle pas ça, mais je me rappelle juste de lui qui me dit vraiment avec beaucoup d'humour, et ils viennent parfois pas voir mes films, mais me voir jouer de la clarinette, ça les éclate. Pourtant je suis pas un grand musicien,
c'est ça,
et mais bon, ça les éclate. Donc, ouais.
On repart en Italie, toujours à Rome, toujours Moretti avec Abeus Papam.
Dear brothers and sisters, nuntio vobis gaudium magnum, Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum.
Non ce la faccio.
Non ce la faccio!
La crise existentielle d'un cardinal au moment de son élection à la tête de l'Église, c'est Michel Piccoli. Il fuit la mécanique électorale du Vatican. Bon, on connaît votre film sur lequel vous faites croire à vos parents que vous devenez catholique. On sait que vous avez rencontré le pape. Ouais. C'est Moretti. Qu'est-ce qui s'est... Pourquoi ce choix?
Alors là, il y a beaucoup de choses qui se mélangent.
Ben oui.
D'ailleurs, quand j'ai été rencontrer le pape, j'ai tellement pensé au film de Moretti.
Ouais.
C'est une idée dingue, c'est une idée de génie. C'est un luxe de la pensée, de la créativité, de l'invention, du talent de scénariste, de se dire, moi je vais inventer l'histoire où un pape, il veut pas paper.
C'est ça.
Il veut pas... Et ça me rappelle les déchets, ils avaient un sketch, vous n'êtes pas pape. Vous n'êtes pas pape. Non, je suis pas pape. Mais en fait, et c'est formidable de pouvoir avoir cette liberté d'imaginer ça. Et alors, il y a une réussite dans ce film-là, dans Habemus Papam. Je me souviens encore une fois d'un plan. Il y a des plans, moi, qui me marquent. Il y a... Quand les enjeux sont tellement bien exposés, des petits détails, des petits mouvements font que vous avez des émotions incroyables au cinéma. Et je me souviens d'un plan où Piccoli se promène, se sauve finalement de sa fonction, et il marche dans Rome. Oui. Pourtant, il ne fait que marcher dans Rome.
Ouais.
Et je me dis au cinéma, je me dis, oh, il est fou. C'est génial. On est tellement préparé.
Ouais.
Et c'est l'art, voilà, c'est les grands cinéastes qui savent faire ça. Et là, Moretti réussit totalement son coup pour moi. Et c'est un grand, grand, grand film. Tout se mélange, et tout ce que j'aime. Le sacré, le mystère, la liberté. Alors, trop de volley-ball, à mon sens. Trop de volley-ball. Ça joue trop au volley.
C'est le psychanalyste joué par Moretti qui conseille ça au cardinal.
Oui, mais il joue trop.
Cardinal. Il joue trop.
Il joue trop. Comme lui adore le volley dans sa vie privée, je pense.
Ouais.
Beaucoup trop de volley-ball. C'est la seule critique que je ferais. C'est pas mal, quand même.
Pas mal. Et enfin, pour conclure cette liste, on la retrouvera sur notre site, un film si proche de, votre métier d'humoriste, Funny People de Joe Lapato. George Simon, c'est Adam Sandler, ancienne gloire du stand-up, devenu richissime grâce à des films idiots, apprend au début du film qu'il est atteint d'une maladie incurable. En fait, lui, c'est l'éternel célibataire, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'amis, c'est un solitaire, quoi. Un solitaire qui fait rire des milliers de gens, mais qui se retrouve tout seul dans sa belle maison.
Alors là, ce film, il me parle, forcément. Parce que...
Pour tout seul, belle maison. Et piscine.
Belle maison, c'est seul, belle maison, piscine ou solitaire qui vous a parlé?
Tout.
Ou film.
Coché.
Non, je crois que c'est tellement ce qu'on redoute et à la fois ce qui est... Plus chez les comiques, je dirais.
Bien sûr.
Chez les comiques, il y a comme ça, il y a pas la tentation, mais il y a l'appel de cette mélancolie, de cette spirale dont on a peur.
C'est pas un cliché, ça.
Non, c'est pas un cliché.
C'est pas un cliché.
Alors après, le cliché, c'est le clown triste, c'est pas vrai.
Non.
Il y a une très jolie histoire là-dessus. C'est un mec qui va voir un docteur et qui lui dit « Docteur, le matin, je me réveille, je pleure, et le soir, quand je m'endors, je pleure. » Et il lui dit « Je pourrais vous donner
des antidépresseurs, mais je ne vais pas faire ça. Je vais vous demander de faire ce que tous mes patients ont fait récemment qui souffraient de dépression. Il y a un cirque qui est là en ce moment en ville. Il y a Popolino, c'est un clown exceptionnel. Ils vont le voir, ils ne reviennent plus me voir, c'est un truc de fou. Mmh. C'est dingue, quoi. Et le patient le regarde et dit « Je suis Popolino
». On va écouter un extrait de Funny People.
Ouais.
Et dans cet extrait, il y a un petit truc.
Film très long, trop long.
Donc, ouais, oui. Entièrement d'accord.
Toujours trop long.
On parle de la première partie, on ne parle pas avec la femme après, oh. C'est inintéressant. Mais extrait...
Alors, je fais une parenthèse.
Dites-moi.
J'ai eu envie, à une époque, avec Roche Dizem, de le reprendre. On a même demandé les droits à Judd Apatow, on l'a rencontré. Et de l'adapter, d'en faire un remake.
Oui.
En français.
Il a dit non.
Non, lui, il était assez chaud. Les droits coûtaient très cher. est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée?
Ben oui, sauf qu'ils ont plus cette culture-là avec les geeks, vous voyez ce que je veux dire,
oui.
Les jeunes geeks. On a ça en France, mais on sait pas les exposer comme eux savent les exposer au
avec
cinéma.
Avec cette rogaine, vous voulez dire,
ouais. En tout cas, on va vous faire écouter un extrait.
Le mec demande des conseils.
Bah oui,
sinon,
oui. Tu...
J'ai visité un appart hier, 120 mètres carrés.
Ah oui, alors ça oui. Alors ça, on dit oui.
10e arrondissement, près du quai de Gemma.
3000 balles. Et on, donc...
Sinon, j'ai rencontré une famille.
On va écouter un extrait de ce film avec un petit truc en plus dedans. Écoutons.
I like having a girlfriend. I don't have one, but I like it better. One night stands are tough, and I'm not great at sex, so at the end of every time, I gotta look at him and go, hey, normally I do better than that. Girlfriends are so much better, you know, you finish up and you're just like, well, you know, that's how I do it.
It's very hard to be romantic with women when you live on a pull-out couch. Once those two little legs come down, you know it's on, right?
What about when you go to the gas station? Do you do this thing? You want to put like $20? You want to put $20 exact number to the decimal? It's useless. The same thing. You go... 18, you slow down. Relax, man. What's going on? Relax. 18, then 18, 15, then 19. Yay! Your wife talks to you. Shut up. I'm focusing here, all right? What do you expect? Three cherries to line up and money bingo? That's weird. We all do things that I don't know why we do such things. Oh, this phrase was weird.
Gad Elmaleh vous dit c'est trop long.
Non, parce que juste avant on a écouté les humoristes américains, c'était très efficace, il y avait un rire toutes les 4 secondes.
Parce qu'on les a coupés plus courts, c'est pour ça.
Ça okay.
Non, mais voilà.
Parce que non, mais on est fous, les humoristes sont fous. J'ai une autre histoire pour vous. Il y a un stand-upper qui est dans son comedy club, qui est là, qui fait les allers-retours comme on fait dans tous les comedy clubs entre le bar et le club, le bar et le club. Et c'est à New York et il y a une femme sublime qui rentre dans le bar et qui va vers ce comique et qui lui dit... C'est vraiment une blague de comique, hein. C'est une blague intra-comique. Hein. Et elle lui dit, écoutez, j'ai vu votre performance hier soir, vous m'avez fait tellement rire, j'ai envie qu'on fasse l'amour. Le mec la regarde, il lui dit, oui, d'accord, mais j'ai une question. Est-ce que vous étiez au show de 19h ou de 21h?
Ça, c'est l'égocentrisme de votre métier.
Alors, c'est à la fois l'égocentrisme et à la fois le... J'aime que tu m'aimes, mais est-ce que tu m'aimes pour les raisons, pour les mêmes raisons que pour lesquelles moi je m'aime, et est-ce que j'aime ce que tu as aimé de moi, et est-ce que finalement je contrôle, en fait.
C'est sûr.
C'est, moi je la trouve très très drôle, cette histoire, parce qu'elle raconte vraiment, vraiment, vraiment le métier de stand-upper.
Elle va conclure cette liste super qu'on retrouvera sur notre site. Vous restez avec nous, bien sûr.
On se
retrouve pour les sorties. Merci. Avec Fontaine D.C. Favorite.
I can claim the dreamer from the dream. Make you feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Well, look who's just the newest clown. 35 shines on you.
On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Laurent, nous allons commencer par IFUS, le dernier tour de piste de Carson Lund. Alors qu'un projet de construction menace leur terrain de baseball adoré, deux équipes amatrices d'une petite ville de la Nouvelle-Angleterre s'affrontent pour la dernière fois.
Oui, alors si on m'avait dit que je m'enthousiasmerais pour un film sur le baseball, j'aurais pas cru. Il faut expliquer le titre.
Quand même. Il a un super sketch.
Il faut expliquer le titre. Le titre, c'est, ça désigne un lancer de balle très technique et retors, qui est un lancer lent mais courbé. Voilà. Et c'est assez métaphorique du film parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout un film sur le sport, mais c'est un film sur un groupe de mecs. Il faut le dire. Il y a juste deux femmes dans l'histoire. Un groupe de mecs qu'on va déposséder avec ce terrain qui ferme d'une de leurs raisons d'être. Et c'est très très beau. C'est une description minutieuse de ce crépuscule. Ça se passe en huis clos, mais c'est un huis clos à ciel ouvert, c'est-à-dire ce terrain de baseball. Il y a une infinie mélancolie avec, par exemple, cette partie, cette toute fin de partie éclairée par les phares des voitures parce que l'éclairage du stade ne fonctionne plus. Il y a des scènes comme ça, extrêmement belle, je le répète, extrêmement mélancolique, et c'est vraiment un très très beau film.
L'autre film, c'est Burr, de la cinéaste britannique Andrea Arnold, à 12 ans. Belle vit avec son frère Hunter et son père Bug, qui les élève seuls dans un squat au nord du Kent. Bug n'a pas beaucoup de temps à leur consacrer, et Belle, qui approche de la puberté, cherche l'attention et l'aventure ailleurs. La caméra, dans un beau travelling latéral, suit Belle sur son skate, une si belle façon d'entrer dans ce quartier, qui est le quartier d'enfance de cette réalisatrice. Le Burr, l'oiseau du titre, c'est la part de rêve de la jeune Bailey, un homme oiseau qui incarne le rêve, l'évasion. Il suffit d'y croire, moi j'y ai cru.
Oui, c'est ça, c'est la condition sine qua non pour faire en sorte que le personnage magnifiquement joué par Franz Rogowski, fonctionne. Voilà, il faut accepter cette intrusion fantastique dans ce qui pourrait être par ailleurs un film habituel d'André Arnold ou un film de Ken Loach, par exemple, sur un quartier, sur un comme ça un environnement social plutôt délaissé. Alors à condition, à cette condition-là, on entre certainement dans une belle fiction.
Pépé de Nelson Carlo de los Santos Arias, les divagations d'un hippopotame déporté depuis l'Afrique du Sud jusque dans la ménagerie privée de Pablo Escobar. Raconté comme ça, ça a l'air vraiment bien. Sauf que le film expérimental est tellement abscon, mélangeant des questions philosophiques, écolo, sociologiques ou anthropologiques, qu'il semble faire un concours d'intelligence avec le spectateur pour décrypter ce langage filmique. Alors désolé, moi je suis pas intelligente et j'ai pas aimé ce film.
Moi non plus, je suis plutôt bête, mais j'ai aimé ce film parce que je le trouve absolument inclassable. Effectivement, c'est ça cherche, hein, ça trouve pas forcément. Quand on cherche, on trouve pas forcément. Alors on croise des gens, on croise la fiction et le réel. Ça pourrait vous plaire, Gad Elmaleh. On croise un pêcheur, des voix. Ah, effectivement, cet énorme hippopotame, c'est une histoire vraie, hein, le coup de l'hippopotame de Pablo.
On dirait une caméra cachée. Là, il est en train d'inventer un truc qui n'existe pas.
C'est une histoire absolument vraie. Et après, il a été, une fois Escobar en prison, l'hippopotame a erré pendant des semaines et des semaines autour de chez lui en Colombie. Bref, non, mais c'est une histoire folle. Là aussi, il faut accepter. Si on accepte, tout va bien et on entre dedans. Si effectivement, on est un petit peu rétif à ce genre
J'aime bien l'idée de chercher sans trouver, moi.
Moi aussi.
Oui, c'est vrai, j'ai pas trouvé non plus. Quiet Life de Alexandros Avranas, dans l'espoir d'une vie meilleure. Serge et Natalia et leurs deux filles ont été contraints de fuir leur pays natal malgré tous les efforts pour s'intégrer et incarner la famille modèle. Leur demande d'asile est rejetée. Soudainement, Katia, leur plus jeune fille, s'effondre et tombe dans le coma. Ils vont alors se battre pour que leur fille puisse se réveiller. En fait, c'est un phénomène assez connu, c'est un mal appelé le syndrome de résignation.
Ben oui, qui frappe. Oui, c'est assez incroyable. Il faut peut-être lire des choses pour s'assurer que le film ne raconte pas n'importe quoi. Or, il ne raconte pas n'importe quoi. C'est assez près du réel, c'est-à-dire cet état dans lequel on tombe quand on est déplacé, en quelque sorte. Et Dieu sait si les populations déplacées, en ce moment, dans le monde, il y en a. Donc il semblerait que ce soit un syndrome.
C'est
qui...
la peur du retour
c'est l'incapacité à vivre cet endroit qui n'est pas le sien, en quelque sorte. Et cette vie nouvelle qu'on doit trouver, mais qu'on n'a peut-être pas envie de trouver, au fond, parce qu'on n'est pas bien là où on est déplacé. Donc c'est vraiment une problématique actuelle, très intéressante. Alors c'est un film glacé, parce que le propos est glaçant. Et il faut accepter, là aussi, cette façon d'être plongé dans un univers absolument rugueux et dans lequel on n'a vraiment pas envie d'être.
Maya, une épopée finlandaise, une saga nordique avec des fées, des déesses, des sirènes, des lutins, plus Jésus auquel croit cette héroïne, Maya, au 19e siècle, qui épouse Jeanne, un modeste pêcheur, qui l'emmènera dans une vie rude, sur une île isolée, 2h40, à suivre cette femme forte et amoureuse, qui croisera la violence de l'histoire et le deuil aussi, le tout déployé dans une mise en scène certes classique, mais simple, ample, tenue par une magnifique actrice, Amanda Johnson.
Oui, je suis tout à fait d'accord, il faut préciser que c'est 5 volumes, hein, la saga fait 5 volumes, c'est un premier film, et c'est le premier film le plus coûteux de l'histoire du cinéma finlandais.
Ah,
depuis son... Oui, ils ont mis tout dedans, parce que c'est un tel succès littéraire qu'ils se sont dit que ça va faire une explosion au box-office, et ben ça n'a pas manqué, ça a explosé au box-office finlandais. Voilà, donc on peut suivre, même si on n'a pas lu cette saga, on peut suivre avec plaisir.
C'est comme si on la lisait devant un feu de bois, en fait.
Il est très réconfortant,
ce film. Ah, oui.
Voilà, c'est un film
très cocon.
Tout à fait.
Tout va bien.
Pas
de
cocon, hein.
Vous avez bien entendu.
Tout ira bien. De Ray Young. C'est un couple homo qui vit un parfait amour à Hong Kong depuis plus de 30 ans. L'un des deux meurt et l'autre va être complètement exilé par la famille.
Ben oui, les bras nous en tombent, évidemment. Hein. Ici, en France, on ne connaît pas ce genre, on ne connaît plus peut-être ce genre de situation. Parce qu'il faut dire, effectivement, que l'héritage revient aux frères de l'une des deux et qui investit l'appartement, donc qui chasse l'autre femme du couple. Enfin, c'est une situation absolument dingue, qui est racontée avec beaucoup de sens de l'ellipse, d'ailleurs, il faut remarquer ça dans ce film, et le propos est tel qu'on ne peut que le suivre avec effarement, en quelque sorte.
Un ours dans le Jura, de Franck Dubosc. Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parlent plus vraiment, jusqu'au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants, 2 morts, et 2 millions de billets usagés dans le coffre. Forcément, ça donne envie de se reparler et surtout de se taire. On n'est pas loin des Coen, Fargo, dans cette succession de coïncidences, de chutes, de coups de feu, de cadavres, avec des personnages idiots comme chez les Coen, d'autres qui le paraissent et ne le sont pas. Dubosc ne les juge pas. Et au-delà du polar, ce sont les relations humaines qui l'intéressent. Un couple qui ne se parle plus, un père qui ne communique plus avec sa fille. Bon, malgré un petit manque de rythme de ci, de là, c'est une belle surprise signée Franck Dubosc. Et à l'intérieur, il y a Laure Calamy, Franck Dubosc et Benoît Poulvord, bien sûr. La Source, Laurent, premier long signé Myriam Jouber.
Oui, premier long métrage avec un sujet là aussi très fort. Il ne faut pas dire qu'on en a déjà entendu d'autres traités au cinéma, parce que bon, voilà, ce sont les enfants envoyés au djihad, perdus en Syrie, ça résonne encore plus évidemment en ce moment. Le souci que moi j'ai eu en tous les cas avec ce film, c'est que, tiens, comme d'autres d'ailleurs de cette semaine, les fantômes et les chimères viennent en masse, au secours ou peut-être au détriment de la réalité, parce que à force effectivement de se balader dans le fantastique, on perd peut-être la force du propos principal.
Avant les cadeaux de Hitchcock, sinon rien, ben, Laurent, les enchaînés, Rebecca.
Ben oui, évidemment, rien que ça, Cary Grant, Ingrid Bergman pour l'un, John Fontaine pour l'autre, le côté espionnage chez les nazis, des enchaînés, ça fonctionne toujours. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez Hitchcock, on se demande encore.
Alors, c'est Noël après Noël, et c'est encore mieux.
Absolument. Alors d'abord, 3 coffrets. Ce sont les fêtes, c'est encore les cadeaux, on y va. 3 coffrets. Le premier coffret, c'est Ken Loach, un certain Ken Loach, avec 5 de ses derniers films, dont moi, Daniel Blake, évidemment, et puis La Part des Anges. Voilà, je ne sais pas si vous aviez vu en salle...
Part des Anges, j'ai vu, c'est
voilà,
incroyable.
Hein, on est d'accord.
C'est pour moi ?
Oui !
C'est pour vous, Gadel Elmaleh. Deuxième, ça c'est, je n'ai pas dit, mais c'est Le Pacte qui fait ce très beau coffret avec 5 DVD dedans. Un autre coffret, ça nous raccorde avec votre choix d'aujourd'hui. Judas Pato, trois comédies cultes. Trois comédies cultes qui sont...
40 ans.
Sans Sarah. Sans Sarah, rien ne va. Mes meilleurs amis et 5 ans de réflexion. Ah. Voilà, c'est chez Elephant, Universal et Elephant. Très très beau, très beau coffret, voilà, qui rend évidemment hommage au génie comique, entre autres, de Jude Apatow, ce cinéaste que vous aimez bien.
Mais oui, aussi.
Dernier cadeau, dernier
coffret. Un autre génie.
Dernier coffret, un autre génie, il s'appelle Fernandel, et Pathé vient de rééditer dans une version restaurée, notamment, il y a 3 films dedans, mais il y en a un que moi j'adore, qui est L'Armoire Volante, de Carlo Rim. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il a le malais, L'Armoire Volante, avec Fernandel de Carlo Rim. C'est un petit bijou fantastique français. C'est un cauchemar réveillé pour Fernandel. Vraiment, c'est magnifique.
Waouh.
Gad Elmaleh, merci. Du 28 janvier au 15 février au Dôme de Paris, ça s'appelle Lui-même. Oui. J'espère que vous ferez un autre sketch sur le cinéma un jour, cinéma français, ça peut être drôle.
Je pense.
Merci à notre bonne année à notre équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Louise Tempéraud à la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Au revoir.
Salut.